Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 novembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les délégations diplomatiques à l'ONU, sensibilisées sur le rôle destructeur des médias anti-iraniens dans les émeutes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la résistance et la coopération est le seul moyen de faire face à la cupidité de l'Occident. Déclaration du président Raïsi. L'Iran ne permet jamais que sa sécurité soit menacée par des terroristes, a insisté Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie. Et puis la résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIOA est rejetée, a déclaré l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les Américains pensaient qu'ils pouvaient arrêter les nations avec des menaces et des sanctions, mais la fermeté des nations indépendantes les a forcés à battre en retraite et a une fois de plus prouvé que la résistance et la coopération sont le seul moyen de faire face à la cupidité de l'Occident, a déclaré mardi le président Raïsi. S'exprimant lors d'une réunion avec le vice-président et ministre des Sciences, le ministre des Transports et le ministre de l'Agriculture et des Terres du Venezuela, le président Raïsi s'est dit satisfait de l'évolution des relations Téhéran-Caracas dans tous les domaines, en particulier de la tenue réussie de la commission mixte de coopération économique des deux pays. Les capacités économiques, scientifiques et énergétiques diverses et étendue de l'Iran rendent la coopération bilatérale et multilatérale avec la République islamique d'Iran utile pour les nations, a ajouté le président iranien. Appréciant la résistance de la nation vénézuélienne contre la cupidité des hégémons, Raïsi a déclaré « Les Américains pensaient qu'ils pouvaient arrêter les nations avec des menaces et des sanctions, mais la fermeté des nations indépendantes les a forcés à battre en retraite et à prouver une fois de plus que la résistance et la coopération sont le seul moyen de faire face à la cupidité de l'Occident. » Ramon Velasquez, ministre des Transports du Venezuela, a présenté à cette occasion un rapport sur la tenue de la commission économique mixte entre l'Iran et le Venezuela après une pause de 8 ans et a déclaré « Dans les négociations, nous avons conclu de bons accords pour élargir la coopération dans les domaines des transports, de l'agriculture, de l'énergie et de la technologie ». Le chef vénézuélien de la commission économique mixte des deux pays a estimé que les résultats des négociations étaient importants pour le développement des relations commerciales entre Téhéran et Caracas et s'est félicité du renforcement de la coopération scientifique et éducative entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, dans un message à son homologue serbe, a souligné que la nation iranienne ne permettra jamais que ses intérêts et sa sécurité soient mis en danger par des interventionnistes étrangers et des terroristes soutenus par eux. Dans un message envoyé mardi soir au premier vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Serbie, Ivka Dačić, Amir Abdollahian a écrit que la République islamique d'Iran, en tant que l'une des victimes du terrorisme et de l'extrémisme, a toujours été le fer de lance de la lutte contre le terrorisme dans toutes les arènes régionales et internationales. Y compris l'ancien haut général du Force de la Rhodes, force extérieure du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le général martyr Rossem Soleimani. Tout en exprimant ses remerciements pour le message de condoléances et de sympathie de son homologue serbe à la suite de la récente attaque terroriste daéchiste visant un sanctuaire sacré dans la ville méridionale de Shiraz, le chef de la diplomatie iranienne a de nouveau souligné que l'Iran, en tant que victime du terrorisme, a toujours fait des pas de géant dans la lutte contre le terrorisme et les activités terroristes, tant au niveau régional qu'international. Malheureusement, certains pays autoritaires prétendant lutter contre le terrorisme, qui ont été déçus par l'imposition de sanctions et la pression maximale sur la nation iranienne, tentent d'utiliser des politiques trompeuses, notamment en encourageant et terrorisant la violence et la terreur, et perturbant le chemin du pouvoir, de l'autorité et le progrès du pays, a-t-il ajouté. Mais la nation de l'Iran islamique ne permettra jamais que ses intérêts et sa sécurité nationale tombent entre les mains d'interventionnistes et de terroristes étrangers soutenus par eux, a poursuivi le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian a exprimé l'espoir que la République islamique d'Iran, en coopération avec les pays amis et indépendants, dont la République de Serbie, puisse prendre les mesures dans la lutte contre le phénomène néfaste du terrorisme et également contrer les politiques trompeuses des puissances arrogantes. L'Iran affirme que la voie diplomatique est le meilleur moyen de résoudre les malentendus avec l'Azerbaïdjan. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait ses remarques lors d'une conversation téléphonique mardi avec son homologue azéri, Jeyhun Bayramov. Il faisait référence aux récents commentaires jugés inamicaux par Téhéran du président azerbaïdjanais au sujet des Iraniens parlant la langue azérie. Amir Abdollahian a exprimé son mécontentement face aux commentaires du président Ilham Aliyev. Le très haut diplomate iranien a déclaré que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des autres pays doit être un principe fondamental pour toute nation. Pour sa part, Bayramov a qualifié de positif les pourparlers et les contacts entre les responsables iraniens et azéris. Il a dit ouvert. Prêt Bakou à renforcer les relations avec Téhéran dans le but de régler les différends. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a faussement affirmé que l'Iran prévoyait de prononcer des condamnations à mort massives pour les manifestants. Dans un tweet devenu viral sur les réseaux sociaux, Trudeau a affirmé que l'Iran allait condamner à mort 15 000 manifestants. Le tweet a été supprimé après 12 heures. Un responsable canadien a déclaré que le message était basé sur des rapports initiaux qui étaient incomplets et manquaient de contexte nécessaire. Le mois dernier, Ottawa a sanctionné un certain nombre d'individus et d'entités iraniens pour ce qu'il a appelé une répression des manifestations qui ont éclaté à la mi-septembre. Mais l'Iran soutient que les émeutes ont été provoquées par des éléments soutenus par l'étranger. En réaction au soutien occidental dont le Canada suivit des États-Unis aux violentes émeutes en Iran et aux terroristes actifs contre la République islamique d'Iran, le ministère iranien des Affaires étrangères a imposé des sanctions à vie responsable et une institution au Canadien. Les individus et l'entité ciblée ont également été reconnus responsables d'avoir encouragé des activités terroristes et des actes de violence contre le peuple iranien, diffusé de fausses informations sur la République islamique d'Iran et contribué à l'application de sanctions oppressives contre la nation iranienne. plus de 17 000 Iraniens, dont des civils, ont été tués par l'OMK dans différents actes de terrorisme, notamment des attentats à la bombe dans les lieux publics et des assassinats ciblés menés au cours des années suivant la victoire de la révolution islamique en 1979. Le groupe terroriste de l'OMK, actif contre la République islamique d'Iran à l'étranger, a trouvé le refuge en Occident. Plusieurs agents de renseignement français arrêtés en Iran. Plusieurs agents de renseignement français ont été arrêtés au cours des émeutes en Iran, a déclaré le ministre iranien de l'Intérieur. Des personnes étrangères ont été arrêtées lors des émeutes, dont certains ont joué un rôle important dans les troubles. Parmi eux, il y avait des éléments de l'agence de renseignement française et ils seront traités conformément à la loi, a déclaré Ahmad Vahidi, ministre de l'Intérieur. Il avait déjà annoncé, dixit, les agents de renseignement antérieur de la Direction générale de la sécurité extérieure de la France ont tenté de contacter et de former des cercles syndicaux illégaux afin de créer des mouvements de protestation et des troubles en Iran. La semaine dernière, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé qu'un total de 7 ressortissants français étaient détenus en Iran. La résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIOA rejetée par l'Iran. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré mercredi « Ils savent même que la résolution qu'ils ont rédigée n'est pas correcte et rejetée par la République islamique d'Iran et aucune délégation de l'agence ne se rendra en Iran. » Selon l'IRNA, en réponse à la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIOA et projet de résolution contre l'Iran, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Mohammad Eslami, a déclaré, dixit, ils ont rédigé une résolution anti-iranienne et apporté à l'appui des documents dont ils savent eux-mêmes qu'ils sont faux et qui sont rejetés par la République islamique d'Iran. L'important est que l'Iran ait un plan approuvé, codifié et annoncé pour faire avancer son programme dans le secteur nucléaire et qu'il poursuive ses activités dans le même cadre. Aucune délégation de l'agence ne se rendra en Iran. L'important est que le ministère iranien des Affaires étrangères assure le suivi de la poursuite des négociations et cela se fait de diverses manières, a-t-il ajouté. Et de poursuivre, c'est dans leur nature d'adopter la politique de pression maximale et de répandre des accusations contre la République islamique par le courant arrogant et sioniste, dépendant des sanctions et à cette politique ratée. Nous nous attendions à ce que la bonne volonté et les réponses logiques de la République islamique soient efficaces et que la voie naturelle et apolitique et la méthode et les normes professionnelles soient les critères, indiquait Eslami. Enfin, un drone porteur de bombes a frappé un pétrolier israélien au large d'Oman. Selon l'agence de presse AP, l'attaque s'est produite mardi soir. La force navale britannique stationnée dans la région a confirmé l'incident. Le pétrolier est exploité par une société basée à Singapour qui appartient à un milliardaire israélien. Jusqu'à présent, aucune responsabilité n'a été revendiquée. De plus, aucune information n'est dans l'immédiat disponible sur d'éventuelles victimes. La région du Golfe Persique a été le théâtre de frappes similaires ces dernières années. En 2021, une attaque de drone a frappé un pétrolier associé à Israël au large d'Oman, tuant 2 personnes. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Les délégations diplomatiques à l'ONU, sensibilisées sur le rôle destructeur des médias anti-iraniens dans les émeutes. En plus de fournir les éclaircissements nécessaires et de présenter leur narratif correct sur les récentes émeutes, j'ai sensibilisé les représentants de 100 pays présents à la réunion de l'ONU au rôle destructeur de certains médias persanophones anti-iraniens pendant les émeutes, a déclaré le chef du Conseil iranien des droits de l'homme. Kazem Gharibabadi, l'adjoint aux affaires internationales du pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran, a déclaré qu'il avait rencontré les représentants d'environ 100 pays à New York en vue de sensibiliser sur leur rôle déstabilisateur de certains réseaux sociaux américains et certains médias persanophones anti-iraniens à la solde sur les émeutes et les troubles en Iran. Parlant au micro des journalistes des médias iraniens à New York, le secrétaire du Haut Conseil des droits de l'homme de la République islamique d'Iran a expliqué le bilan de ces réunions, ajoutant « Au cours de 3 derniers jours à New York, j'ai rencontré les représentants de plus de 80 pays. J'ai rencontré et discuté avec un groupe concernant des pays membres du mouvement des pays non alignés, des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique et le groupe des Amis de la Charte des Nations Unies. J'ai également parlé avec plus d'une douzaine d'ambassadeurs et de représentants permanents de différents pays à l'ONU et avec le chef du Conseil économique et social des Nations Unies. Dans ces entretiens, nous nous sommes concentrés sur la présentation documentaire de la vraie image des troubles en Iran et de ce que certains pays occidentaux et les États-Unis appellent faussement des rassemblements pacifiques, a ajouté Gharibabadi. Lors de ces réunions, nous avons protesté contre les soutiens apportés par certains pays aux troubles et aussi contre les positions politisées de certaines organisations internationales au nom des droits de l'homme et leur mutisme face à l'attentat terroriste Shiraz, a souligné ce responsable iranien. Le rôle de ces médias persanophones anti-iraniens n'est pas moindre que celui des groupes terroristes. Les actions menées par ces médias sont pleines d'incitations à la violence, aux crimes, à l'insécurité et aux actes terroristes, a martelé le chef du Conseil iranien des droits de l'homme.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. C'est un débat concernant les propos du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, qui a tenu un discours récemment très dur et très direct à l'adresse des États-Unis et d'Israël. Concernant les élections présidentielles en Israël, il a dit que tous les gouvernements et des cabinets israéliens étaient des terroristes et corrompus. Et concernant les États-Unis, il a dit que toutes les administrations américaines et les objectifs de ces dernières, que ce soit républicaines ou bien démocrates, et bien sûr visaient les mêmes objectifs qui étaient bien sûr commettre des crimes contre les Palestiniens. Et pourtant, ils ont toujours soutenu ces crimes et ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, nous allons parler de cela avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a déclaré que l'ennemi n'a pas réussi à détourner la nouvelle génération dans la région du juste chemin de la résistance. Il a fait ses remarques vendredi à Beka lors d'une cérémonie marquant la journée des martyrs au Liban. Le chef de mouvement de la résistance libanaise Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, se référant à l'opération martyr de la résistance menée le 11 novembre 1982 contre le bâtiment du quartier général militaire israélien à Tir, au cours de laquelle plus de 100 soldats et officiers israéliens ont été tués, a déclaré « Cette opération a ébranlé l'ennemi ». Hassan Nasrallah a évoqué les complots de l'ennemi visant la nouvelle génération des pays de la résistance, l'ennemi, notamment les États-Unis, a cherché à répandre des cultures inappropriées à une culture de l'indifférence parmi notre jeunesse. Malgré toutes les tentatives de l'ennemi dans le cyberespace, je dois dire que l'ennemi n'a pas réussi à éloigner nos enfants du juste chemin de la résistance. Nos jeunes rivalisent même entre eux aujourd'hui pour aller sur les fronts de guerre et porter bien haut le drapeau de la résistance. Il a ensuite appelé le peuple libanais à ne pas capituler face à la malédiction des États-Unis, dont le seul désir des Américains est de protéger le régime israélien. Faisant référence aux élections américaines de mi-mandat, Nasrallah a déclaré que les gouvernements républicains et démocrates ont lancé des guerres et des invasions. Concernant les récentes élections législatives en Israël, le chef de la résistance libanaise a souligné « Tous les gouvernements et cabinets israéliens ont toujours été des terroristes et corrompus. » Il a ajouté « Nous ferons face à tout cabinet israélien, qu'il soit extrême ou modéré, de gauche ou de droite, avec son pouvoir et ses éléments. » Il en va de même pour l'accord de démarcation maritime. Nous ne comptons que sur notre force pour affronter Tel Aviv. Washington n'a pas conclu l'accord de démarcation de la frontière maritime pour le bien du Liban, mais plutôt pour épargner la région de la guerre, car ses priorités sont maintenant l'Ukraine, la Russie et l'énergie, a poursuivi Nasrallah. Il a ensuite appelé le peuple libanais à ne pas capituler face à la malédiction des États-Unis, dont le seul désir des Américains est de protéger le régime israélien. Concernant la politique américaine dans la région, tout en condamnant la loi César et les sanctions contre le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen, il a évoqué les événements internes en Iran avant de rappeler que la République islamique d'Iran a su une fois de plus déjouer les intrigues des Américains et de l'Alliance israélo-occidentale.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Emadeddine Hamrouni, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. M. Hamrouni, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité et à tous nos téléspectateurs.
Oui, justement, Maître André Chamy, juriste international et expert des questions internationales depuis l'Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, ainsi qu'à Monsieur Hamrouni et à vos téléspectateurs.
Un plaisir donc de vous recevoir. Ma première question va s'adresser à Maître André Chamy. Alors, Maître André Chamy, nous parlons bien sûr du discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, un discours très direct et très dur qui a secoué le monde politique en s'adressant directement aux États-Unis et à Israël. Que pensez-vous?
Le discours de Saïd Hassan Nasrallah était, il y a deux jours, un discours, comme d'habitude, d'un véritable chef d'État, en réalité, bien qu'il n'en a pas le titre, parce qu'il y avait une portée à caractère local, une portée à caractère régional et une portée à caractère régional, international. Sur le plan local, il a rappelé le rôle de la résistance et le début du martyr du jeune Ahmad Qassi, qui se trouve à l'origine, entre guillemets, de cette journée du martyr, mais en même temps du déclenchement des hostilités sur une grande échelle contre l'occupation israélienne au Liban, et le développement de la résistance dans ce sens-là, avec nombre de martyrs qui ont contribué à la libération du Liban, qui ont contribué à la préservation de l'entité et de l'intégrité du territoire libanais, mais même au-delà de l'intégrité du territoire libanais, à la préservation de la paix dans la région, aussi bien en Syrie qu'en Irak, voire au-delà. Ce sont des points qui ont été rappelés par rapport à ce que j'appellerais le point local et le rôle de la résistance, jusqu'à ce qu'on arrive à la question de la fixation des limites territoriales, je dirais pas territoriales, mais en tout cas les limites des eaux entre le Liban et l'entité sioniste, qui est en réalité une entité d'occupation, parce que même ces mers de ce côté-là, ce sont des mers palestiniennes, ils ne sont pas des mers israéliennes. Mais bon, ce n'était pas le thème du débat, mais je rappellerai que cette ligne de démarcation n'a été fixée que par la force de la résistance et par la menace directe qui a été menée par Saïd Hassan Nasrallah contre l'entité sioniste et contre tous ceux qui oseraient continuer d'exploiter ces zones maritimes au détriment du peuple libanais, au détriment des intérêts du Liban et surtout au détriment de l'économie libanaise qui est quasiment moribonde. Et tout cela a été rappelé sur le plan local. Mais sur le plan régional, il a rappelé également que c'est cette résistance qui a permis de renaître, de voir renaître cet esprit de combattre toute occupation, aussi bien au Liban qu'en Syrie, qu'en Irak, mais surtout au sein des territoires palestiniens, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est née, qui est inspirée de la résistance libanaise et qui est même insufflée par la force de la résistance libanaise et qui aujourd'hui dépasse tout, je dirais, toutes les perspectives israéliennes et américaines concernant la population palestinienne, parce qu'on croyait que avec la première occupation et les nouvelles générations, cet esprit de résistance allait disparaître. Et en réalité, on découvre au contraire cet esprit de résistance s'est accentué aussi bien au Liban qu'en Palestine. Et aujourd'hui, quand on constate ce qui se passe comme acte de résistance héroïque du côté des jeunes Palestiniens qui ont dépassé et de loin leurs propres parents ou leurs grands-parents, nous avons la démonstration qu'effectivement cette nouvelle génération est là et elle prépare en quelque sorte la libération du territoire palestinien israélien.
Oui.
Et cet esprit se généralise à travers le monde parce qu'aujourd'hui, l'idée que les États-Unis ou l'entité sioniste puisse menacer tel ou tel pays ne font plus peur. Aujourd'hui, au contraire, il y a deux exemples qui ont été donnés, et ces exemples démontrent que ces puissances n'auront pas le dernier mot et peuvent être battus, peuvent être vaincus et peuvent aller au-delà de toutes les, je dirais, prévisions qui ont été envisagées par les Israéliens et par les Américains. La preuve, c'est que l'Israélien avait installé une sorte de gouvernorat au sud du Liban en croyant que ils allaient gouverner le Liban à travers ou à partir de cette base-là. Puis ce qui s'est passé, c'est que le premier bâtiment visé, c'était ce gouvernorat et qui a déclenché le démarrage du départ d'Israël, alors qu'on était en 82-83, c'est-à-dire c'était le début de l'installation, et finalement ça a donné quoi? Ça a donné juste le top départ pour, si j'ose dire, l'évacuation et l'éviction des Israéliens qui sont installés au Liban. Et puis on a vu au fur et à mesure, quelques années plus tard, ils n'avaient plus de présence jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire à peine 17 ans après, il n'y a quasiment plus d'Israéliens sur le territoire libanais, à l'exception de quelques zones qui se trouvent à l'extrême sud, c'est-à-dire les fermes de Sheba et d'autres petites zones qui se trouvent, et que Farchouba, qui se trouvent à l'extrême sud, mais qui seront libérées, puisque vous avez en parallèle la promesse de Saïd Hassan al-Nasrallah d'obtenir la libération de ces territoires-là, comme il a obtenu la libération des territoires maritimes libanais.
Absolument.
En rappelant que ça, c'était les exigences de l'État libanais, mais pour lui, ce ne sont pas les droits dans leur totalité des droits du peuple libanais sur leurs eaux territoriales, parce que lui, il estime que ces eaux territoriales vont encore au-delà de ce qui a été fixé. Mais il s'en contente momentanément, mais ça permet également l'exploitation de cette zone au profit du peuple libanais, au profit de l'économie libanaise. C'est-à-dire, derrière ça, derrière ce discours local et régional, vous avez également un discours international qui s'adresse directement aux États-Unis, parce qu'il dit que les Américains traitent le Hezbollah, il a utilisé plusieurs adjectifs en disant ça peut être la rage ou une infection ou une malédiction ou une maladie. Il a dit, quel que soit le qualificatif, regardez voir ce que font les Américains, c'est eux qui sont la malédiction, c'est eux qui sont la rage qui ronge la région, c'est eux qui sont le cancer qui range la région. Et pour se débarrasser de ce cancer, il faut se débarrasser des Américains, et avec une démonstration très détaillée et très explicite par rapport au rôle des Américains dans la région, qui démontre qu'ils n'ont amené que la destruction et le malheur dans cette zone-là.
Oui,
il faut donc maintenant aller au-delà de ce qui est fait maintenant, c'est-à-dire se débarrasser carrément de toute présence américaine dans la région, et cela ne peut se faire qu'à travers des actes de résistance qui doivent se généraliser dans toute cette zone-là, comme cela est déjà le cas en Syrie et en Irak. Mais à mon avis, il y a maintenant une direction vers l'accentuation de ces actes de résistance afin de parvenir à une libération pure et simple de tous ces territoires, de toute présence américaine, et pas seulement de la présence sioniste, mais également de la présence américaine, parce que cette présence trouve en quelque sorte son pendant l'un dans l'autre, c'est-à-dire vous avez l'une dans l'autre, c'est-à-dire la présence américaine appuie l'occupation israélienne, il appuie la présence israélienne, appuie également la politique américaine. Et par conséquent, il faut se débarrasser des deux simultanément afin de parvenir à une libération réelle de l'ensemble des populations de cette région-là. Et en même temps, à mon sens, ils visaient également tous leurs collaborateurs dans la région-là, et on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, tout à fait. Maître Chami, vous avez entendu les propos de M. Emadeddine Hamrouni. Bien sûr, Cheikh Hassan Nasrallah a dit que tous les objectifs des administrations américaines, que ce soit républicaines ou bien démocrates, sont similaires, seules les tactiques diffèrent. Et de l'autre part, M. Emadeddine Hamrouni a dit qu'ils font tout, les États-Unis et Israël, pour semer la discorde au sein même de la politique à l'intérieur du Hezbollah libanais, pour empêcher ce parti d'avancer et de résister face à l'hégémonie.
Vous savez, aujourd'hui, l'entité sioniste a deux grandes menaces, si j'ose dire, et ce sont des menaces existentielles. J'ai envie de dire d'abord les Hezbollah, parce que c'est l'ennemi le plus proche, et en second lieu, c'est la République islamique d'Iran. D'ailleurs, l'ensemble des chefs de gouvernement et même des responsables de sécurité et les chefs d'état-major israéliens rappellent systématiquement et de manière constante, et ce depuis quelques années, que leur premier ennemi, c'est la République islamique d'Iran. Pourquoi la République islamique d'Iran ? Et pourtant, c'est à des milliers de kilomètres de la frontière supposée de cette entité. C'est parce que c'est l'animateur, entre guillemets, pour ne pas dire le premier instigateur de lutte contre l'entité sioniste et contre l'impérialisme américain. Et ce rôle-là rend évidemment la République islamique d'Iran le premier ennemi de ces deux puissances. Par conséquent, s'il y a des attaques internes contre le Hezbollah par les collaborateurs aussi bien des Américains que des Israéliens à l'intérieur du territoire libanais et à l'intérieur même du monde arabe, parce que moi je me rappelle en 2006, à l'époque, le prince saoudien disait que le Hezbollah était composé d'aventuriers au lieu d'appuyer le Hezbollah dans sa guerre contre l'entité sioniste. Et ils ont été traités d'aventuriers. Et Saïd Hassan Nasrallah a eu une vraie phrase à l'époque, je dirais, de chef de guerre. Il leur a dit, nous sommes des aventuriers et nous assumons notre rôle, mais nous refuserons à ce moment-là, et bien entendu, la soumission et l'agression. Et au lieu de se soumettre, et bien entendu, la contre-attaque contre l'Israélien a été menée d'une main de maître et a mené évidemment à la victoire que tout le monde connaît et que tout le monde reconnaît, y compris à l'intérieur de l'entité sioniste, mais pas pour certains à l'intérieur des pays arabes. C'est ça que je trouve médiocre et inacceptable, mais en tout état de cause démontre la qualité de collaboration de certains pays arabes et de certaines organisations arabes, y compris à l'intérieur du territoire libanais, parce qu'il y a des mouvements au Liban qui ont eu pratiquement des positions identiques. Et il nous parlait à l'époque des tours de menaces contre le tourisme libanais à travers cette guerre-là, au lieu de penser à l'entité libanaise et surtout à l'intégrité du territoire libanais et je dirais même à la sécurité du Liban. Mais vous avez des esprits qui sont dévoyés, et ça également a été rappelé hier par Saïd Hassan Nasrallah en rappelant le rôle de l'éducation, le rôle de cette idée de la résistance, comment on insuffle l'idée de la résistance de génération en génération. Ces questions-là, ce sont des questions existentielles pour la résistance, mais ce sont des questions existentielles pour l'ensemble de l'axe de la résistance. Et c'est ça, en réalité, la menace qui touche le plus les ennemis de ces résistants, parce que tant qu'il y a des esprits résistants qui se transmettent de génération en génération, la menace continuera contre ces entités, l'entité sioniste et contre l'impérialisme américain. Ce sont des points fondamentaux dans ce que j'appelle l'esprit du futur de la résistance, et c'est ça qui fera prospérer les causes que nous défendons et que nous entendons prospérer dans l'avenir proche et plus éloigné.
Tout à fait. Justement, Maître Chami, les jeunes donc du parti libanais se défient pour aller à la première ligne du front contre l'antisionisme. Monsieur Madedine Hamrouni, que pensez-vous?
C'est ça, c'est la culture du martyr. C'est-à-dire l'invention, j'ose dire, mais l'invention de la révolution islamique iranienne et la résistance libanaise, et on le voit partout maintenant, en Syrie, en Irak, au Yémen, il y a le martyr. Et cette culture du martyr, elle a un fondement réel. C'est-à-dire comment on choisit de mourir pour la cause. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire dans la culture moderne, on cherche à rester en vie. C'est pas on cherche à mourir. Et donc cette culture du martyr, à la base, c'est donc la culture spirituelle de Karbala, de l'imam al-Hussein, et bien d'autres. Mais cette culture, elle existe partout, dans toutes les cultures humaines. On l'a vu dans les Indiens d'Amérique aussi. Ils se sont mis, ils se sont combattus jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ils ont choisi de ne pas s'assimiler. Ils ont choisi le martyr. Et c'est ça la bonne, comme l'a dit Maître Chamit tout à l'heure, l'invention de cette jeunesse libanaise et cette jeunesse iranienne des années 80, c'est-à-dire aller libérer les territoires et aller combattre l'ennemi. Aller combattre l'ennemi avec sa propre force, c'est-à-dire sa force spirituelle d'abord, sa force morale après, mais aussi préparer la force technologique. Et c'est ça aujourd'hui l'affrontement entre les États-Unis et l'axe de la résistance, c'est un affrontement. Ce n'est pas simplement technologique, c'est un affrontement culturel. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle culture de vie. Et cette culture, on l'entend le président Poutine. C'est-à-dire dans le discours de président Poutine, Monsieur le russe Amroni, aujourd'hui, oui, il œuvre pour une nouvelle culture, la culture des hommes. Et cette culture des hommes saints, des hommes libres, on la voit où? On la voit en Iran, on la voit en Palestine, on la voit au Yémen, en Irak et surtout au Liban. Donc Saïd Hassan Nasrallah, il a toujours été le symbole de tous ces martyrs, de toutes ces familles libanaises importantes, qui a donné la vie de ses enfants pour libérer le Liban, la Palestine, mais surtout pour libérer les hommes de toute peur face à l'oppression américaine. C'est ça l'importance de la résistance libanaise, en fait.
Mais pourtant, M. Hamrouni, l'antisioniste et les États-Unis, que ce soit républicains ou démocrates, ont tout fait pour tuer cette culture au sein même du Hezbollah libanais. Mais en vain, n'est-ce pas, M. Hamrouni?
Bien sûr, vous savez, l'ennemi, il est très puissant. L'ennemi a une grande puissance de feu, il a une grande puissance de communication, il a des moyens financiers et économiques, on le voit, cet ennemi-là, il n'a même avec ses alliés. Nous, en Europe, aujourd'hui, on souffre. La population européenne, elle souffre d'une guerre où les peuples d'Europe n'ont rien à voir avec. C'est-à-dire que la décision américaine ou britannique ou israélienne de soutenir l'Ukraine et de faire la guerre à la Russie, eh ben, c'est les peuples européens qui payent le prix fort. Eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire cet ennemi, c'est une malédiction, pas simplement pour la région, mais pour le monde. Et c'est dans le discours de Saïd Hassan Nasrallah, a beaucoup de sens. C'est-à-dire malgré sa force, malgré cette force économique, militaire, financière, de communication aussi, mais il est très fragile. Il est très fragile parce qu'il ne porte pas les valeurs des hommes. Parce que cet ennemi-là, on peut le vaincre, on peut le battre. Et donc il donne l'espoir par la force spirituelle, par la force morale, mais aussi la force technologique. Et c'est pour cette raison on voit que la coopération entre l'Iran, la Russie, la Chine, la résistance libanaise, le gouvernement syrien, la résistance irakienne, la résistance yéménite, c'est cette coopération technologique, mais aussi dans le sens de lutter pour des valeurs plus importantes humainement, elle emportera la victoire, comme Maître Chami l'a dit tout à l'heure, on se bat pour le futur.
Madedine Hamrouni, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Maître Chami depuis l'Alsace d'avoir apporté beaucoup de précisions à cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
We'll be right back. chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. La force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique lance avec succès le transporteur suborbital à trois étages Raem-100 à combustible solide. L'essai en vol suborbital du moteur du premier étage Rafée du lanceur à combustible solide Raem-100 s'est effectué avec succès ce samedi 5 novembre en présence du général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI et d'un groupe d'officiels et de responsables des forces armées. Le lanceur à combustible solide Raem-100 est un satellite qui, avec trois étages de combustible solide, est capable de placer des satellites pesant 80 kg sur une orbite de 500 km de la surface de la Terre. Lors du test de ce samedi, le moteur du premier étage du satellite Raem-100, qui est le moteur à combustible solide Rafée et qui a passé avec succès son test au sol en janvier dernier, a été soumis à un essai en vol suborbital. En franchissant cette étape, dans un proche avenir, le satellite Nahit de l'Organisation aérospatiale du ministère des Communications et des Technologies de l'Information sera mis en orbite à l'aide du porte-satellite à trois étages Raem-100 du CGRI. Le lancement de ce transporteur de satellites n'était pas le seul acquis important annoncé au cours de ces derniers jours. Le ministère iranien de la Défense a dévoilé dimanche 6 novembre la version améliorée du système de missiles solaires Bavar 373 conçu et fabriqué dans le pays et a inauguré la chaîne de production du missile à longue portée Sayad P4. Le radar amélioré du système de missiles Bavar 373 est capable de détecter en même temps 300 cibles à une distance supérieure à 450 km. Cette portée est estimée à 400 km lors de verrouillage sur les cibles. Par rapport aux versions étrangères, le système Bavar 373 a l'avantage de pouvoir intercepter à la fois 100 cibles à une distance de 405 km. Or, le S-300 ne peut pas détecter plus de 12 cibles à une distance inférieure à 200 km, ce chiffre ne dépassant pas les 36 cibles pour le système de missiles S-400. De même, le système de missiles Bavar 373 est capable de cibler en même temps 9 objectifs, alors que le S-300 et le fameux Patriot sont respectivement capables de cibler à la fois 6 et seulement un objectif. La République islamique d'Iran condamne fermement l'utilisation de l'arme chimique par quiconque, n'importe où et en toutes circonstances et la considère comme une violation flagrante du droit international, a déclaré l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. Amir Saidi Ravani a déclaré que tenir des réunions au sujet des armes chimiques en Syrie au sein du Conseil de sécurité à de courts intervalles sans aucun progrès du dossier vise à renforcer les suspicions politiques et les accusations contre la Syrie. Dans un discours prononcé lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a loué l'initiative de l'État syrien qui a soumis un rapport mensuel détaillé au directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur la destruction de ces armes et les installations de production. Politiser les exigences de la Convention sur les armes chimiques, exploiter l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à des fins politiques, met la crédibilité de cette organisation et la Convention en péril. La Syrie a volontairement adhéré à la Convention sur les armes chimiques en 2013 et a détruit son arsenal et ses installations de production. Dans ce contexte où nous encourageons le dialogue entre les parties, nous sommes fermement convaincus que la coopération entre la République arabe syrienne et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques doit être reconnue. étant donné que la République syrienne respecte les exigences de la Convention sur les armes chimiques et coopère de manière constructive avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, la gestion de ce dossier, dans une ambiance politique et avec une approche de deux poids, deux mesures, ne fait que dévier les discussions de son aspect technique. Alors que nous estimons que ces questions doivent être discutées de manière technique et au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Bassam Sabar, le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a déclaré lors de la réunion du Conseil de sécurité que la poursuite effrénée des pays occidentaux et leur insistance à tenir des réunions du Conseil de sécurité sur le dossier chimique de Syrie vise à répéter les mêmes accusations, ce qui est inacceptable et ne correspond pas à leurs devoirs en vertu de la Charte des Nations Unies. La Syrie a signé la Convention sur les armes chimiques en 2013, après les accusations concernant l'utilisation d'armes chimiques dans la route à Damas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé une résolution sur la destruction de l'arsenal chimique syrien sous supervision internationale. De plus, lors d'une opération à laquelle 9 pays, dont la Russie, ont participé, environ 1200 tonnes de substances toxiques ont été détruites. L'Amérique est le seul pays à avoir conservé ses armes chimiques. Selon la Convention sur les armes chimiques, les États-Unis sont tenus d'anéantir leurs armes chimiques d'ici fin septembre 2023. L'an 17 novembre, les groupes de résistance palestiniens ont procédé à un test de missile qui vise à renforcer leur capacité militaire. Sans en mentionner le type, l'agence Shahab News a rapporté que les groupes de la résistance palestinienne ont tiré un missile en direction de la Méditerranée. Le tir de ces missiles prouve non seulement que la résistance palestinienne est prête pour une éventuelle guerre contre le régime sioniste, mais qu'il porte également en lui un message pour Israël. À cet égard, la radio israélienne Kan a prétendu, dans un rapport récent, que le mouvement palestinien Hamas a adopté une nouvelle initiative pour surprendre le régime sioniste dans un éventuel conflit militaire à l'avenir. Selon la radio israélienne, qui évalue à quelque 10 000 le nombre de missiles du Hamas, le mouvement de résistance palestinien a créé une ceinture de sécurité à la frontière de Gaza et a mis au point près de la moitié de ses missiles dans le but de les tirer quotidiennement vers la Palestine occupée d'Israël pendant un mois. Quarante-six civils ont été tués ou blessés en un mois dans l'explosion de mines au Yémen. Le Centre exécutif pour l'action contre les mines du gouvernement de salut national a annoncé que 46 civils ont été tués ou blessés au cours du mois d'octobre dans l'explosion des mines et des bombes à fragmentation implantées par la coalition d'agression saoudienne. 18 personnes ont été tuées et 28 autres blessées pendant le mois d'octobre, a-t-on appris de la chaîne d'information yéménite Al-Masira, citant le Centre exécutif pour l'action contre les mines de Sana'a. Depuis le début de l'année en cours, 219 civils yéménites avaient été tués et 424 autres blessés dans l'explosion de mines et de bombes à fragmentation déposées par la coalition d'agression saoudienne, dit le communiqué. Ce centre a ajouté dans son communiqué que la coalition d'agression saoudienne empêchait l'entrée d'appareils et d'équipements nécessaires pour nettoyer les zones de la présence de bombes et de mines, ce qui explique l'augmentation du nombre de victimes. Les forces de l'armée syrienne ont tué des dizaines de terroristes du front al-Nusra lors d'une frappe menée en représailles au meurtre de 5 soldats syriens. Le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des partis opposés en Syrie, Oleg Yegrov, a dit dimanche 6 novembre que l'armée de l'air syrienne avait pris pour cible des positions du front al-Nusra en réponse à une attaque massive de drones organisée par ces terroristes sur les positions des troupes gouvernementales syriennes près de Salma, dans la zone de désescalade d'Idlib, attaque qui a coûté la vie à 5 soldats syriens. La frappe de représailles de l'armée syrienne a tué 93 terroristes, dont des commandants supérieurs, et en a gravement blessé 135 autres. Un camp d'entraînement et des abris souterrains appartenant aux terroristes près de la colonie d'Ashrani Tartani ont été également détruits. Selon le ministère russe de la Défense, un atelier de drones, une station radar mobile et une quarantaine de drones de combat prêts à l'emploi ont également été détruits par les troupes syriennes. Ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Thank you.